Bonjour, bienvenue sur ce nouveau podcast du blog Super Pouvoir pour tous. Je suis Gaëlle Lannes et aujourd'hui on va parler des différences entre l'hypnose, la méditation, la pleine conscience. C'est pas toujours évident de s'y retrouver, donc on va faire un peu le point là-dessus. Alors ce blog parle essentiellement d'hypnose et puis l'hypnose gagne à être connue et reconnue aujourd'hui pour se libérer de ses souffrances et puis aller vers un mieux-être ou soyons fous, un bien-être. Mais d'un autre côté, la majorité des livres et des articles sur le bonheur en général parle de méditation et de pleine conscience comme la chose à faire pour être heureux. Alors dans la pratique de l'hypnose, souvent, il faut imaginer des trucs. Et puis dans la pratique de la méditation, là aussi, on doit souvent imaginer des trucs. Mais alors du coup, c'est quoi la différence au final? Et c'est un peu comme le yoga, il y a beaucoup de gens qui se sont approprier ces pratiques en les éloignant plus ou moins de leurs sources ou même en les croisant, ce qui fait qu'on trouve un peu de tout partout et donc c'est parfois difficile de s'y retrouver. Donc aujourd'hui, je vais tâcher de faire le point le plus objectivement possible sur les différences et les points communs pour vous orienter vers la pratique qui vous correspond le plus, ou qui sait, peut-être tout à la fois. Mais d'abord, on va parler un peu d'ego. Alors, pourquoi on parle d'ego là comme ça? Parce qu'en fait, l'ego va être impliqué différemment selon les pratiques, donc je me suis dit que ce serait peut-être utile de faire un paragraphe dessus. Alors, vaste sujet de philo dont je suis loin d'être spécialiste et que je ne vais faire qu'évoquer, d'ailleurs selon ma compréhension actuelle, donc reprenez-moi si je dis des bêtises, vous aurez de quoi aller plus loin en bas de l'article. Bon, alors on entend souvent, et négativement d'ailleurs, la phrase « Ah, oh, cette personne, elle a un ego pas possible ». Dans le sens de narcissisme et d'égocentrisme. L'ego, c'est un peu plus vaste que ça. Pour faire court, on peut dire que l'ego, c'est tout ce que vous croyez être, votre personnalité, ce que vous avez construit, tout ce à quoi vous vous identifiez, ce par quoi vous vous définissez, vous et vos expériences. Moi, je suis brune, plutôt introvertie, j'accorde beaucoup d'importance à la liberté et au partage. Et j'ai commencé la phrase par moi je. Quand vous vous sentez trahi, c'est un aspect de votre personnalité qui est contrarié. Quand vous vous sentez accepté, les attentes d'un autre aspect de vous sont satisfaites et l'expérience est agréable. Alors il y a cette définition de Anne de Vide que j'ai lue chez Mathieu Ricard dans Plaidoyer pour le bonheur, chapitre Les voiles de l'ego, qui dit que l'ego est une réaction affective à notre champ d'expérience, un mouvement mental de recul basé sur la peur. Et donc Monsieur Ricard poursuit en disant que par crainte du monde des autres, par peur de souffrir, par angoisse de vivre et de mourir, on s'imagine qu'en se retranchant à l'intérieur d'une bulle, celle de l'ego, on sera protégé. On crée l'illusion d'être séparé du monde en espérant s'éloigner de la souffrance. Bon. Quand on dit que quelqu'un est complètement hypnotisé par quelque chose, on imagine facilement quelqu'un qui a la bouche ouverte, qui bloque, fasciné par cette chose au point d'en oublier le reste. La télé ou le nouvel amoureux qui laisse tomber ses amis, classique. Pour toujours faire court, on peut considérer que l'ego, justement, est notre hypnose. On est hypnotisé par notre ego. Et ce, depuis très longtemps qu'il se construit, donc on ne se rend même pas compte en quoi. On considère ça comme notre état normal, puisque, après tout, si je me définis plus avec l'étiquette Jean-Louis et homme, avec tout ce que ça représente, eh ben, qui je suis? Pourtant, c'est justement une représentation, pas mon essence. C'est-à-dire que si on se met à m'appeler Sylvie, mon ego est perturbé, mais en vrai, j'existe de la même façon. Votre essence, c'est qui vous êtes vraiment au-delà de toutes ces constructions mentales. Et comme ça fait bien longtemps qu'elle est cachée par tout le reste, eh ben, c'est normal que le concept vous paraisse abstrait. Vous ne savez sans doute plus ce que c'est, et de toute façon, le définir, ce serait encore un coup de l'ego. On le comprend en le vivant. On va donc rapprocher ici l'essence du moi profond, du moi authentique, du moi véritable. Vous êtes toujours là, c'est bon? Bon, alors on continue et on va du coup parler de tchouing, l'hypnose et l'auto-hypnose. Alors si vous avez déjà lu quelques articles de ce blog, vous commencez à savoir un peu de quoi il s'agit, comme c'est le sujet, donc je vais pas trop m'attarder sur ce point-là. Mais quand même, l'hypnose c'est une pratique qui vise à faciliter un changement. On se sert d'un état modifié de conscience, l'état hypnotique, pour atteindre plus facilement un objectif de reprogrammation émotionnelle ou comportementale. On va du point A au point B, on ne fait pas d'hypnose sans but. On va donc passer d'une émotion à une autre, d'un comportement à un autre. On travaille sur ce qui s'est construit, sur ce que vous avez appris consciemment ou pas, sur les représentations de soi et donc sur l'ego pour qu'il soit plus facile à vivre. Pour soi, on fait de l'auto-hypnose selon ses envies, ses besoins et ses idées, Et donc on peut en faire tous les jours pour une raison ou pour une autre. Mais de par cette utilisation, eh bien on va dire que l'hypnose, c'est une pratique plutôt ponctuelle. À se défaire d'un comportement limitant, encombrant, parasitant, on a donc la possibilité de se sentir plus libre et plus léger. Et se sentir plus libre et plus léger, c'est là qu'on croise la méditation, mais pour une autre raison. Alors comment débuter en hypnose et auto-hypnose? Eh bien je vous invite tout simplement à lire l'article que j'avais écrit spécialement pour ça, vous retrouvez le lien dans l'article. On en arrive donc à... Chouing ! La méditation. Je fais mon sound design toute seule. La méditation, ça permet de revenir à la source de soi, de se déshypnotiser de l'ego. On oublie ce qu'on a appris. Alors c'est pas une tâche facile, hein, et accéder à l'état méditatif, ça demande une pratique régulière et consistante. En revanche, avant d'y arriver, ce qui ne doit d'ailleurs pas être un objectif en soi, quelques semaines de pratique permettent déjà de se rendre compte du chemin parcouru, donc c'est encourageant, mais on va y revenir après. Alors pour accéder à la méditation au sens d'état méditatif, on va utiliser des techniques de méditation qui vont produire l'effet au fur et à mesure de se sentir plus libre et plus léger justement. Petit à petit, on se libère et on s'allège du flux incessant des pensées en tout genre avec tout ce qu'elles provoquent et tout ce qu'elles impliquent, donc au final ça fait quand même un sacré poids en moins. La méditation en tant que telle, c'est une compréhension beaucoup plus globale de ce que vous êtes. Ça va bien au-delà de votre ego dont vous êtes complètement détaché à ce stade de sage. Alors vous serez peut-être pas un sage, mais en tout cas d'ici là, il peut se passer plein de trucs intéressants. Je vais citer maintenant Frédéric Vincent dans l'avant-propos de son livre « Zéro mental » qui dit que « toute méditation n'est en réalité qu'une tentative de méditation ». Le méditant doit en réalité disparaître pour laisser place à l'état méditatif, c'est-à-dire un état de présence au-delà du mental. Alors, ça donne quoi ces tentatives de méditation? Chouing ! La méditation guidée. Cette fois, on parle justement d'une technique, enfin même de plusieurs. Et c'est en fait ce que pratique la majorité des gens aujourd'hui à l'aide de différents supports audio ou autres apprentissages. En général, on va d'abord chercher à canaliser l'attention sur un objet de concentration, donc la respiration, une bougie ou une sensation physique, pour garder les pensées à l'écart ou alors juste les laisser passer. Cet objet de concentration va servir de repère pour que, dès qu'on se rend compte qu'on est parti dans ses pensées, on puisse revenir à ce repère. Petit à petit, on va pouvoir retirer cet objet de concentration, ce repère, sans que les pensées ne reviennent. Et plus on avance dans la pratique, moins longtemps on en a besoin, plus longtemps on peut profiter d'un vide apaisant. Et ça permet d'aborder la méditation à proprement parler beaucoup plus facilement, parce qu'en fait on n'est pas habitué à faire le vide. C'est très difficile et c'est chiant, on s'ennuie. Avec les différentes orientations ou objets de concentration, on s'occupe, mais avec une seule chose, donc on habitue ou on réhabitue son esprit à se concentrer sur une seule chose, et ça, c'est déjà pas mal. La méditation guidée, c'est une sorte d'auto-hypnose pour aller plus facilement vers la méditation tout court. Clairement, une méditation pour améliorer l'estime de soi en vous visualisant rempli de lumière, ça a un but, vous êtes actif. Mais en fait, dans ce genre de pratique, vous l'êtes tout le temps. Donc c'est de l'hypnose et l'approche vous permet de vous familiariser avec les techniques de méditation plus avancées auxquelles vous allez venir après. Alors je vais pas vous faire la liste de tous les effets subtils de la méditation comme on fait ceux du jus de citron le matin et des antioxydants, mais les pratiques de méditation ont déjà fait l'objet de nombreuses études scientifiques et sont notamment reconnues comme thérapie à part entière en milieu psychiatrique et médical, avec essentiellement la pleine conscience dont on va parler tout de suite après. Mais, en super bref, eh bien, pratiquer la méditation, ça va vous aider à significativement réduire votre stress, votre anxiété, vos insomnies et vos états dépressifs. La méditation, elle permet aussi de développer la créativité, et pas juste votre fibre artistique, hein, celle aussi qui permet de résoudre vos problèmes. Ça améliore la mémoire et donc la concentration, logiquement. Et comme vous devenez plus équilibré et plus stable émotionnellement, eh bien c'est tout votre entourage qui en profite et vous voyez vos relations devenir beaucoup plus harmonieuses, entre autres. Donc comment débuter la méditation? Si vous comprenez l'anglais, je vous conseille vraiment l'application Headspace. Il y en a quelques-unes, mais je ne les ai pas testées. Headspace, c'est celle que j'utilise. C'est beau, c'est bien expliqué, c'est bien accompagné, c'est très complet et surtout c'est très accessible. Enfin bon, c'est merveilleux, et vous avez 10 méditations offertes pour tester. Ensuite, justement, dans le livre Zéro Mental, eh bien, vous trouverez une cinquantaine de techniques de méditation, épurées de toute philosophie. Donc il y a juste la technique à expérimenter et vous pouvez en faire une par semaine, par exemple. Commencez petit, en tout cas. C'est pas la peine de vous embarquer dans une méditation guidée de 40 minutes au début, ça risque de vous gonfler. Vous augmentez après la durée de vos exercices petit à petit. L'important, c'est, quelle que soit la durée, même si c'est 3 minutes, d'être régulier. Une sorte d'idéal étant de faire 2 créneaux de 20 minutes par jour. Comme j'ai pas fouillé sur YouTube parce que ça me fait un peu peur, j'ai préféré vous traduire en français et vous enregistrer une méditation de Headspace de 10 minutes, donc c'est cadeau. Vous pouvez la retrouver dans l'article et faire un clic droit pour la télécharger. Donc n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Et pour terminer, on va maintenant parler de... Chouing ! La pleine conscience. Donc la pleine conscience, elle nous vient du bouddhisme. C'est un état d'attention qui consiste à écouter, à observer au présent, avec neutralité, vos expériences intérieures et extérieures. Toutes les expériences sont acceptées, bonnes ou mauvaises, puisque justement on ne les juge pas, bonnes ou mauvaises. On a souvent tendance à fuir, à éviter, à vouloir supprimer ce qui est désagréable, à vouloir le contraire, que ce soit possible ou non. Alors avant de pouvoir se dire qu'un changement pénible cache une opportunité de croissance, sur le moment, c'est la résistance au changement qui crée plus de souffrance que le changement en lui-même. En acceptant tout ce qui est, on n'est plus en résistance et donc tout devient plus facile à vivre, plus fluide. Ça demande de l'entraînement, là aussi. On peut dire que la pleine conscience, elle va se pratiquer de deux façons. Donc premièrement par des techniques de méditation orientées pleine conscience, là Headspace le fait très bien justement. Et puis au quotidien, en observant vos gestes, vos émotions. En remettant de la conscience dans vos automatismes et en faisant aussi une chose à la fois. Vous vous brossez les dents, vous vous brossez les dents, point. Vous ne vous brossez pas les dents en réfléchissant à votre matinée ou en faisant les 100 pas. Là aussi, on va voir comment débuter. Comme toujours, commencez petit. On a parlé des techniques de méditation tout à l'heure, donc pour ce qui est de développer la pleine conscience au quotidien, eh bien choisissez des moments courts où vous pouvez rester concentré sur ce que vous faites. Donc en effet, quand vous vous brossez les dents, ou quand vous prenez votre café, par exemple. Quand vous réussirez à manger en ne faisant que ça, ça ce sera une sacrée étape de pleine conscience, par exemple. Vous pouvez aussi profiter des petits moments d'attente lors de vos transports. À ce moment-là, plutôt que vous distraire avec votre téléphone, vous corrigez votre posture, vous vous immobilisez quelques instants pour parcourir les différentes sensations du corps. Vous pouvez regarder chaque chose autour de vous telle qu'elle est. Un pigeon, c'est pas un sale oiseau, c'est juste un pigeon qui fait sa vie de pigeon. Quand vous buvez de l'eau, mettez votre conscience sur le trajet de l'eau dans le corps. Quand vous faites une tartine, eh bien, vous ressentez le bruit, l'odeur, la texture du pain qui craque sous le couteau. Vous pouvez regarder les trous et puis vous attarder sur l'onctuosité de la purée de noisettes. Également, avant de vous coucher, vous pouvez passer en revue votre journée et faire une liste de vos humeurs et de vos émotions. Vous le faites sans objectif comme ça, avec un petit carnet c'est mieux, mais sinon, même mentalement, rapidement, ça peut faire l'affaire. Parce que en créant ce réflexe, en prenant cette habitude le soir, vous allez commencer à y faire attention en journée, pour savoir ce que vous allez lister le soir. Et donc vous mettez votre pleine conscience en marche, naturellement. Alors pour celles et ceux qui font le lien, hein, oui, la pleine conscience passe aussi par laisser du mieux possible son portable de côté. Donc, dans les transports, eh bien, plutôt que de se distraire sur un Candy Crush ou de parcourir son feed Facebook machinalement, ben, revenez à vous quand vous en prenez conscience. Donc, en conclusion, ces pratiques-là, elles sont toutes complémentaires et vous avez tout à y gagner à vous mettre assidûment, en tout cas du mieux que vous pouvez. Voyez la méditation sur le long terme, posez-vous pour une technique aussi souvent et longtemps que possible, et puis utilisez l'hypnose comme appoint, aussi régulièrement que vous en avez besoin, pour quelque chose de spécifique. La pleine conscience, c'est aussi ce qui va vous permettre d'identifier vos objectifs pour l'hypnose, parce que c'est à partir du moment où vous devenez conscient d'un fonctionnement que vous pouvez intervenir dessus. Alors, c'est tout un programme, mais c'est fascinant, non ? Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur ces différentes pratiques, sur ces différentes approches. Postez votre commentaire sur justement votre pratique personnelle de l'hypnose, de la méditation ou de la pleine conscience. Si vous avez des conseils pour approfondir tout ça ou pour simplifier quelque chose, là aussi je serais ravie de vous lire et sûrement les autres lecteurs, donc n'hésitez pas. Je vous ai aussi mis en bas de l'article quelques liens pour aller plus loin. Voilà, je vous dis à très bientôt, passez une bonne semaine!